Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tableau, le bord de Seine, qu'une femme a trouvé dans un marché aux puces en Virginie, aux États-Unis. Et selon le Parisien, différents médias en ont parlé, cette femme a obtenu le tableau en question dans le cadre d'un lot. Il y avait, semble-t-il, une vache en plastique, une poupée. Et le tableau lui-même a coûté l'équivalent de 6 euros. Il s'agit en fait d'une œuvre de Pierre-Auguste Renoir, estimé à entre 75 000 et 100 000 dollars. Vous voyez, avec ses 6 euros, elle a pas payé grand-chose pour le tableau en question. Ce qui est drôle, en fait, quand on pense aux circonstances, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment craqué sur le tableau lui-même, c'est le cadre qui lui plaisait. Le rococo, ça lui a plu. Et elle pensait réutiliser le cadre pour se débarrasser de la peinture. Puis finalement, elle a découvert que ce Renoir qui était sur le cadre signifiait le Renoir, le peintre en question. Elle a voulu le vendre aux enchères et en fait, il s'avérait que c'était un tableau volé, donc elle n'a pas pu en bénéficier. Elle a payé cette somme-là. Mais payer 6 euros pour quelque chose qui vaut 80 000, elle n'a pas pris beaucoup de risques, on va dire les choses comme ça. Elle n'a pas pris beaucoup de risques en faisant cet achat. Si vous avez lu et entendu ces paraboles que Sophie nous a lues, vous voyez qu'il y a le fait d'être prêt à payer une somme importante, tout donner, tout vendre pour obtenir quelque chose qui semble inestimable, hors de prix. Un trésor, une perle. Et ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que vous imaginez quelque chose pour lequel vous seriez prêt à tout donner, tout ce que vous possédez? Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle vous seriez prêt à faire ça? On va essayer de réfléchir ce soir à ce texte et en résumer peut-être cette phrase qui pourrait nous aider à voir le sens de ce passage. Le royaume est un trésor valant tous les sacrifices. Le mépriser, c'est se perdre. Y puiser, c'est pouvoir édifier les autres. On va essayer de le vérifier en parcourant le texte. Le découpage, on le fera en deux points. Ce qui vaut tous les sacrifices, dans les versets 44 à 46, et ce qui vaut la peine d'être pesé. On va commencer avec ce qui vaut tous les sacrifices. Première parabole. Il s'agit d'un homme qui découvre un trésor dans un champ. Et ça peut paraître surprenant pour nous. Est-ce qu'on découvre régulièrement des trésors comme ça dans un champ? Mais en fait, c'était une pratique relativement courante pour les gens à l'époque d'enterrer leurs biens quelque part sur leur propriété. Les enterrer, pourquoi? Parce que il n'avait peut-être pas confiance dans un établissement ou des personnes qui allaient le gérer, ou alors, à cause d'un climat politique incertain, ils allaient enterrer ce trésor. Et il arrivait aussi que la personne qui enterrait ce trésor meure subitement et qu'on ne sache pas où il avait placé ses biens, où il les avait mis. Et donc, ce n'est pas une surprise totale de voir un texte, une histoire que Jésus invente, hein, mais qui probablement avait d'autres qui s'étaient produits de la même façon à peu près. Quelqu'un qui découvre par hasard un trésor. Il s'agit probablement d'un ouvrier agricole qui travaille dans un champ. Et dans la manière d'agir, il semble respecter certaines règles. Plutôt que de le prendre tout de suite, il va acheter le champ dans lequel il se trouve. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a pour payer ce champ. Il obtient ainsi le trésor qu'il avait trouvé. Dans la deuxième parabole que Jésus raconte, il s'agit cette fois-ci d'un marchand de perles. Un marchand de perles. À la différence du premier homme, il semble que celui-ci était déjà riche, quelqu'un qui avait un métier intéressant. On voit la richesse de cet homme dans le fait qu'il va acheter la perle à son plein prix. À la différence d'un homme qui achète un champ dans lequel se trouve un trésor, il ne paie pas la totalité de ce qu'il va trouver. Certaines perles, il faut le savoir, pouvaient valoir des millions. Et c'est ce qu'il découvre, en tout cas. Il semble découvrir une perle plus belle que toutes celles qu'il avait découvertes. Deux paraboles qui ont un certain nombre de points communs entre elles. On va voir lesquelles. La répétition, elle est, semble-t-il, là pour accentuer certaines choses, nous faire comprendre un message important. Il y a en même temps des différences, et celles-là, on essaiera aussi de les relever. Quelles sont les idées fortes que Jésus veut accentuer par ces deux histoires? D'une part, la première chose qu'on peut relever, c'est la valeur de la découverte. Caractère inestimable de la chose qui est découverte, un trésor dans le premier cas, une perle dans le deuxième. Quant à la différence, on peut noter que pour l'un, c'est la surprise totale, il découvre ça dans un champ. Pour le deuxième, on a affaire à un expert, quelqu'un qui cherche des perles et donc qui le trouve dans le cadre de son métier, c'est un expert en quelque sorte. Deuxième élément, qui est un point commun aux deux, c'est qu'ils sont tous les deux prêts à se défaire de tout ce qu'ils possèdent. Ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils possèdent pour le trésor, la perle. Dernier point commun, il est sous-entendu, c'est la prise de décision. Et à un moment donné, dans les deux cas, la prise de décision, je suis prêt à renoncer à tous mes biens face à la chance de ma vie. Il y a une opportunité ici que je ne veux pas manquer et je suis prêt à prendre cette décision. D'où la joie débordante du premier, par exemple. Qu'est-ce que Jésus veut mettre en évidence par ces deux paraboles? Il y a déjà une explication qu'on veut mettre de côté. Celle qu'on veut mettre de côté, c'est que, alors qu'on parle d'hommes qui sont prêts à vendre ou à donner tous leurs biens pour acheter quelque chose, on pourrait penser, à tort, que le royaume, c'est quelque chose dans lequel on entre par un troc, un donnant-donnant. Autrement dit, je viendrai vers Jésus avec un certain nombre de choses à offrir dans un échange, des œuvres, des mérites, de l'argent. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable sur la base des paraboles qui précèdent. Ça ne peut pas être ça, le sens de cette parabole. Alors qu'il est question d'un cadeau qui est fait, et Anne-Sophie l'a mentionné tout à l'heure, ça ne colle pas avec les paraboles plutôt qui nous parlent d'une graine semée, quelque chose qu'on reçoit à la différence de quelque chose qu'on mérite, quelque chose qui tombe, qui nous est donné. La facette de ces deux paraboles, ce qui est mis en évidence, c'est plutôt qu'il va falloir être prêt à renoncer à tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a pour entrer dans le royaume de Dieu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu sans renoncement, sans rupture, sans abandon, sans changer de mode de vie. De nouveau, ce n'est pas le fait de payer pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne collerait pas d'ailleurs avec le premier homme qui a payé juste le champ, il n'a pas payé le trésor. Non, il s'agit plutôt d'être prêt, l'accent dans ces deux histoires, c'est d'être prêt à renoncer, à se défaire de tout ce à quoi on est attaché pour entrer dans le royaume. On pourrait penser à d'autres paroles que Jésus a prononcées dans ce même évangile de Matthieu, Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce que Jésus affirme ici et ailleurs, c'est que le suivre, ça entraîne un certain nombre de sacrifices. Dans le même ordre d'idée, on pense à d'autres moments où il a parlé d'une invitation et où les gens réagissent de différentes façons. On pense à Matthieu 22, verset 5, à une invitation généreuse. La réponse est, ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son commerce. Luc 14 parle de quelqu'un qui dit en fait, j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Ou alors, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Bon, ça, c'est peut-être pas... Pour vous, vous n'êtes peut-être pas dans le même cas de figure. Je vais aller les examiner. Ou je viens de me marier. Différentes excuses qui sont avancées, des raisons pour ne pas entrer dans ce royaume, recevoir cette invitation favorablement. À l'inverse, dans notre parabole, ces deux hommes sont prêts à renoncer à tout pour obtenir ce trésor. Qu'est-ce qu'on devrait en tirer en tant que lecteur? Une chose qui devrait ressortir pour nous, c'est que face à la réalité du royaume, toutes les autres choses on devrait être prêt à les sacrifier parce qu'on a saisi la valeur du royaume. Pour exprimer le fait que ça coûte cher, il y a peut-être une illustration qui peut nous aider à réaliser en même temps le bienfait énorme que cela représente. Il y a une illustration qu'on trouve dans le livre de C.S. Lewis, son livre Les fondements du christianisme. Ça peut peut-être nous aider à comprendre. Il dit la chose suivante. Imaginez un instant que vous êtes une maison vivante et que Dieu ait l'intention de vous rebâtir. Au début, peut-être, comprenez-vous ce qu'il fait. Vous savez que les réparations étaient indispensables. Aussi, n'êtes-vous pas surpris de le voir remettre les gouttières en état ou colmater les fuites du toit. Mais il en vient bientôt à bouleverser la maison de fond en comble. Ce qui fait terriblement mal et ne vous semble plus avoir de sens. Que fait-il donc? La réponse, c'est qu'il érige une demeure entièrement différente de celle de vos rêves. Ajoutant une aile ici, surélevant un étage là, élevant des tourelles, créant des cours. Vous pensiez qu'il allait vous transformer en un petit pavillon coquet, mais Dieu est en train de faire de vous un palais pour venir l'habiter en personne. Imaginez une personne qui viendrait vers Jésus avec les affirmations suivantes. Jésus, j'ai entendu parler de toi, j'ai lu la Bible, différents passages sur toi, et tu as, semble-t-il, beaucoup à apporter. Mais en fait, de mon côté, je ne te demande pas grand-chose. Je te demande simplement que dans cette situation pénible que je vis, tu m'accordes d'en être libéré. Je te demande simplement ça. Ou alors, quelque chose comme, je te demande simplement une profession stable, un métier stable. C'est tout ce que je te demande. Ou alors, un mariage réussi, épanouissant. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas plus. En venant comme ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est précisément en train de dire qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas prêt à renoncer. Une situation professionnelle, un mariage épanouissant, peut-être de bonnes études, une bonne trajectoire. On peut multiplier les exemples. Et il faut qu'on se comprenne, ce n'est pas mauvais, c'est même une bonne chose d'aspirer, légitime d'aspirer à ces choses. Mais dans quelle mesure est-ce que ce sont des choses auxquelles je n'ai pas envie, desquelles je ne veux pas me débarrasser, je ne serai pas prêt à céder. Il doit me donner cela. Alors que lui veut justement nous dire que nos ambitions, elles sont trop étroites, on demande trop peu. Il veut nous donner beaucoup plus que cela. Quand on se place dans la peau de ces hommes qui sont mentionnés dans l'histoire de Jésus, il y a certainement des choses qu'ils devaient avoir à l'esprit et qui étaient importantes pour eux. Ça, j'y suis attaché, il y a quelque chose de sentimental dans cet objet-là. Et pourtant, ils sont prêts à renoncer à tout cela, prêts à tout vendre. Est-ce qu'il est possible qu'on soit, de notre côté, beaucoup plus calculateur dans ce qu'on veut obtenir et dans ce qu'on espère? Je veux bien te suivre, Jésus, si tu me sors de telle situation. Je vais bien te suivre, Jésus, si tu m'accordes tel bienfait. Et paradoxalement, ce qu'on trouve de l'autre côté du « si » est précisément la chose qu'on ne veut pas lâcher. Peut-être pour être plus précis dans l'application, on pourrait penser à l'importance de notre réputation ou la peur du ridicule. Après tout, qui a envie d'être vu comme quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, complètement à côté de ses pompes à l'ouest? Et là, je ne dis pas qu'il s'agit de personnes qui ont effectivement tendance à être à côté de la plaque. Hein. C'est la réputation, en fait. Je ne dis pas qu'il s'agit de quelqu'un qui effectivement se comporte de manière insensée et qui attire toutes sortes de regards accusateurs. Mais par exemple, est-ce que je fais de ma réputation quelque chose d'essentiel dans les personnes que je côtoie? Est-ce que j'ai peur, fortement peur, que des gens réalisent que je suis chrétien? que j'ai des convictions tirées de la Bible? Est-ce que j'ai fortement peur d'être associé à la foi en Jésus sur mon lieu de travail? Si c'est le cas, est-ce que je ne suis pas en train de dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important à préserver. Le contexte dans lequel ces paraboles se trouvent, la manière dont elles sont encadrées, montre qu'il y a une perspective éternelle, à la fois ce qui vient juste avant et ce qui viendra juste après. L'espérance au-delà de la mort doit être en vue quand on réfléchit à la valeur du royaume. Il y a des biens présents dont Jésus veut parler, le fait de se savoir pardonner de ses offenses, la puissance à l'œuvre en nous pour nous transformer dans le présent, le privilège de la prière, il y a tous ces privilèges-là. Mais au-delà, il y a l'espérance de la vie éternelle, la réalité à venir. Jésus se veut honnête en affirmant que ça représente effectivement un coût. Il ne présente pas une vie en rose, un long fleuve tranquille, mais il affirme en même temps que le trésor en vaut la chandelle. Le trésor en vaut la chandelle. Vous m'avez compris. Le trésor en vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle. J'aimerais vous lire une citation d'un auteur qui m'a touché par ce qu'il a dit honnêtement, l'auteur d'un livre sur la prière. Il a écrit en toute honnêteté comment sa femme et lui avaient été très affectés parce que leur fille, au moment de ce qu'avait subi leur fille au moment de sa naissance, elle a été, semble-t-il, victime d'une erreur grave sur le plan médical. Et suite à cela, elle est devenue autiste. Et une des difficultés que la mère a rencontrées, c'est le fait qu'elle avait prié pour que Dieu protège son enfant. Avant même la naissance, elle avait prié sur la base du psaume 121, un psaume qui parle de protection. Mais avec de telles circonstances, après coup, comment comprendre ce qui s'est passé? Après cette traversée de désert, fait de questionnements, de lutte avec toutes sortes de pensées, quelques 20 ans plus tard, dans la joie d'avoir vu grandir leur fille, malgré son handicap, devant les bienfaits qu'elle a apportés à la famille, le père écrit la chose suivante. Nous avions pensé que le dommage était une fille avec des handicaps, mais ce n'était rien en comparaison avec le danger de deux parents fiers et obstinés. Parce que Kim était muette, Jill et moi avons appris à écouter. Sa vulnérabilité nous a appris à être vulnérables. De petites bribes qui nous disent que si le suivre représente un coût qui paraît énorme, Dieu est déterminé à accomplir pour nous une œuvre bien plus grande, bien plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer. On arrive maintenant à ce qui vaut la peine d'être pesé. Jésus continue en disant « Voici à quoi le règne, encore à quoi le règne des cieux est semblable. » Autrement dit, les deux paraboles qui précèdent doivent être liées à celle-ci et elles parlent d'un filet de poissons. Alors qu'il y a un certain nombre de disciples qui étaient pêcheurs de métier, il a probablement utilisé cela pour parler, pour les aider à comprendre. Il est question de toutes sortes de poissons qui sont récoltés dans ce filet, ramenés au bord, et là, un tri, comme c'est toujours le cas, un tri est fait dans ce qui est consommable et ce qui ne l'est pas. Il y a des poissons qu'on ne mangerait pas facilement. Moi, je me souviens, quand j'habitais à Logne, à l'est de Paris, il y a des petits lacs artificiels, et dans ces lacs, on voit de temps à autre des pêcheurs. Chaque fois, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils pêchent là-dedans? Et en fait, s'il s'avère que c'est souvent des poissons-chats, c'est des poissons qui mangent de tout, qui mangent tout ce qui traîne, qui sont laids, particulièrement laids. J'ai fait un petit tour sur Internet pour savoir si on pouvait manger le poisson-chat. C'était marrant de trouver, par exemple, une mère qui sur un forum, demandait « Est-ce qu'on peut manger un poisson-chat ? » Il y a mon fils qui en a pêché un et mon mari qui me dit qu'il veut le préparer. Est-ce qu'on peut le manger ? Du coup, il y a effectivement un tri à faire. Il paraît qu'on peut le manger, hein, mais il y a des choses qu'on ne mange pas, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Et selon cette parabole, il y a ce tri qui est fait. une autre illustration d'un temps où un jugement doit s'opérer, une évaluation doit se faire. On ne va pas revenir sur cette question du jugement dernier qu'on a déjà traitée il y a 2 semaines. On remarque simplement que la même citation est faite à la fin qu'on retrouve dans la parabole des mauvaises herbes. Ce qui ressort, c'est que ce trésor, cette perle, dont il est question dans les 2 paraboles précédentes, si on le méprise, on se perd. On manque quelque chose d'essentiel. C'est se perdre de le faire. Et comme c'était le cas lors de l'étude sur la parabole de ces 2 semences, de ces mauvaises herbes et de ce blé, on doit mesurer la gravité de ce qui est dit, la gravité des conséquences dans ce positionnement. Au-delà de la 3e parabole, les disciples vont entendre Jésus leur poser une question. Avez-vous compris tout cela ? On se souvient de différents moments dans cette série qu'on a fait dans le Matthieu 13 où les disciples viennent vers Jésus en disant « Mais on ne comprend pas ce que tu viens de nous dire. » Ici, c'est Jésus qui leur demande et on peut souligner le fait que la réponse est positive. Ils ont compris. En fait, il y a certains qui disent que c'est la seule fois où on entend dire « Oui, nous avons tout compris. » Donc c'est rare d'avoir les disciples qui comprennent tout. Et là, ils ont effectivement compris l'essence de ce que Jésus voulait leur dire. Si c'est bien le cas, s'ils ont bien compris, dans la perspective de Jésus, il y aura des implications. On lit au verset 52, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. On peut se demander pourquoi Jésus commence à parler d'un scribe. Dans le judaïsme, les scribes avaient pour tâche de recopier les textes sacrés, mais fonction encore plus importante, ils devaient interpréter, enseigner, c'était en quelque sorte des théologiens. Et le fait que Jésus utilise ici le terme de scribe nous fait faire un lien avec le judaïsme. Dans la particularité de ce scribe ici, Jésus dit qu'il est instruit dans le règne des cieux. Autrement dit, il connaît bien l'Ancien Testament, il connaît bien les écrits juifs, la première partie de la Bible, mais en même temps, il a accueilli le royaume, il a reconnu en Jésus le roi. C'est une réalité pour lui. Et il va pouvoir tirer, selon l'image, des choses nouvelles et des choses anciennes. On voit tout au long de l'évangile de Matthieu, il y a cette importance donnée au fait que Jésus n'est pas venu pour faire table rase sur le passé, il est venu non pas abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. En Jésus, les promesses et la loi trouvent leur accomplissement. Il les accomplit en sa personne. Ça nous dit une fois de plus que ce n'est pas quelque chose que nous accomplissons, ce n'est pas les promesses que nous accomplissons, la loi que nous arrivons à suivre. C'est Jésus qui fait tout cela et c'est dans ce trésor-là que nous puisons. On avait commencé les paraboles en reconnaissant que Jésus veut révéler quelque chose. Il veut révéler la réalité de son royaume et il termine en disant que si nous avons reçu cette révélation, si nous avons compris ce qu'il a enseigné, alors on voudra le communiquer à d'autres, faire en sorte que d'autres puissent être édifiés. C'est ça le tout scribe, le scribe instruit du règne des cieux qui puise à la fois dans les choses nouvelles et anciennes. Matthieu va terminer son évangile en parlant de ce commandement de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a cet enseignement qu'ils vont donner au-delà de cette bonne nouvelle qui concerne Jésus, le roi. Ça signifie que si j'ai compris ces paraboles, eh bien, j'ai compris qu'il y a différents types de réactions, comme cette semence, on se souvient, qui a été semée en différentes terres. Il y aura différents types de réactions. Et je suis invité à recevoir cette parole avec foi, avec humilité, et voir germer un fruit abondant. Si j'ai compris ces paraboles, j'ai compris que son royaume avance, mais de manière insignifiante souvent à l'œil, comme une graine de moutarde qui est semée, et qui va grandir, pousser, pour devenir un arbre immense. Si j'ai compris ces paraboles, je comprends que Jésus, il n'est pas dépassé par le mal qui est côte à côte avec son royaume, par une hostilité vis-à-vis de lui. Il n'est pas dépassé ou frustré. Il y aura un temps du jugement. Et j'ai compris aussi que dans la perspective de l'éternité, je dois être prêt à renoncer à tout pour pouvoir saisir ce privilège du royaume. Et si j'ai compris tout cela, j'aurai à cœur d'édifier les autres, d'ouvrir la Bible avec quelqu'un d'autre, un frère ou une sœur ou des amis, et partager ce que j'ai reçu. Et c'est cette invitation avec laquelle Jésus termine. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons reconnaître qu'il n'est pas facile de renoncer à tout pour acquérir ce royaume. Et pourtant, nous voulons croire que tu veux nous ouvrir les yeux sur cette joie-là, d'un bien plus grand, d'un bien inestimable que tu produis en nous, d'une œuvre parfaite que tu accomplis en nous, d'une dimension éternelle donnée à ce royaume. Quelque chose qui n'est pas passager, quelque chose qui ne va pas rouiller, qui ne va pas disparaître ou être volé. Et Père, nous te prions que nous puissions expérimenter la joie de goûter à ce royaume, dès à présent, le pardon de nos péchés, le privilège de la prière, la puissance à l'œuvre en nous, et au-delà, cette espérance. Nous te prions, Père, que tu nous accordes aussi, comme tu invites les disciples à le faire, à édifier les autres et à être réaliste quant à ce royaume que tu as dévoilé, réaliste dans la manière dont il est vu par les autres, l'hostilité, l'aspect méprisé, que tu nous accordes la grâce d'être réaliste, d'être sincère dans la description de ce royaume et d'être confiant que comme une graine de moutarde, il pousse, il grandit. Et nous te louons, Seigneur, de nous accorder la grâce d'en faire partie. Au nom de Jésus. Amen.